Paryżu, tu Warszawa i wszystkie rozgłośnie Polskiego Radia. Dziś rano o godzinie 5:40.
Christina Skarbek, alias Christine Granville, est une des espionnes les plus fascinantes de la Seconde Guerre mondiale.
Le 1er septembre 1939, Hitler annonce au Reichstag que depuis ce même jour, 5h45, l'Allemagne tire sur la Pologne.
Dès 1939, alors que son pays venait d'être envahi par les Allemands, cette Polonaise, patriote et aventureuse, s'est rendue à Londres et a proposé ses services aux renseignements britanniques.
Si le terrain est accepté, nous envoyons un message pour le terrain à Londres. Par exemple, n'importe quel message, et puis...
Un engagement qui l'a amené à accomplir les opérations les plus dangereuses en Europe occupée.
Nous entendons ça, nous irons au terrain.
Refusant toujours d'être reléguée dans un bureau, elle fut la première agente britannique à servir sur le terrain. Travaillant d'abord pour l'Intelligence Service, puis pour le SOE, le Special Operation Executives, elle a risqué sa vie de multiples fois. Quand elle se rendait clandestinement en Pologne occupée, passant à ski la frontière pour éviter les contrôles nazis, ou en 1944 dans le Vercors en France, quand elle a réussi par un incroyable coup de bluff à faire libérer un chef du SOE sur le point d'être fusillé. Un de ses plus beaux exploits, c'est elle qui, la première en 1941, révéla à Churchill que l'armée d'Hitler s'apprêtait à envahir l'Union soviétique.
À 4 heures ce matin,
Hitler
a attaqué et envahi la Russie. Soudainement, sans déclaration de guerre, sans même un ultimatum, les bombes allemandes se sont mises à pleuvoir sur les villes russes.
Plusieurs fois soupçonnée ou même arrêtée par la Gestapo, elle a réussi à chaque fois à s'en sortir, par chance, mais surtout grâce à son étonnante ingéniosité et à son sang-froid dans les situations critiques. Sa réputation de quasi-invincibilité était telle que les Britanniques en sont venus à un moment à la soupçonner d'être une agente double pour l'Allemagne. Mince, sportive, élégante, cheveux châtain court, yeux en amande, Christina Skarbek était courageuse, elle était aussi très belle et très séduisante. Peu d'hommes résistaient à son charme. Mariée deux fois, cette femme libre et indépendante eut aussi de nombreux amants. Mais elle n'était pas la seule. Homme ou femme, quand on est à la guerre, au diable la morale, on vit au jour le jour, et faire l'amour permet d'oublier qu'on va peut-être mourir demain. Accro au danger, Christina Skarbek fait partie de ces êtres hors normes qui se sont révélés dans la guerre et qui se sont sentis perdus au retour de la paix. Et comble d'une terrible ironie, celle qui, pendant la guerre, avait surmonté tous les périls, allait trouver la mort, victime d'un vulgaire féminicide, un soir de juin 1952. Christina Skarbek est née en 1908 dans une Pologne incorporée de force à l'Empire russe. Ce n'est qu'après la Première Guerre mondiale que la Pologne redeviendra indépendante. Christina est la fille du comte Jerzy Skarbek, le descendant d'une vieille famille polonaise, aristocratique mais totalement désargentée. Sa mère, Stefania Goldfeder, est la fille d'un riche banquier juif. Un mariage arrangé qui a permis de renflouer les caisses du père et de donner un titre à la mère. Les premières années sont heureuses. Vivant à la campagne, Christina, petite fille joyeuse et sportive, a une enfance très libre et privilégiée. Elle monte à cheval, apprend à skier, à tirer au pistolet et au fusil. Des leçons inhabituelles pour une jeune fille, mais qu'elle n'oubliera pas. Son père, qui l'adore, l'appelle son étoile. Les choses vont moins bien quand Christina, 14 ans, est envoyée en pension dans une école catholique. Un jour, à la messe, pour faire une farce, l'adolescente rebelle tente de mettre le feu à la soutane du curé. Elle est immédiatement renvoyée. Seul avantage, la jeune fille y a appris le français, la langue de la bonne société qui lui sera bien utile, pas dans les salons de thé de Varsovie, mais en 1944, quand elle sera parachutée dans le Vercors. En 1918, la Pologne enfin fête son indépendance.
Tu es heureuse?
Je suis heureuse que la Pologne soit libre. Ça a été ma plus grande joie ces dernières années. Libre après une si longue servitude pour la première fois.
Mais pour Christina, la situation familiale bientôt se détériore. Son père, qui multiplie les maîtresses et dilapide la dot de sa femme, meurt de la tuberculose. Quasi ruinée, la mère et la fille déménagent dans un petit appartement à Varsovie. Christina, sans diplôme, décide de travailler. Elle trouve un emploi chez un concessionnaire automobile, Fiat. Un emploi de bureau où, sans grande surprise, la jeune fille s'ennuie ferme. Et où, en plus, les vapeurs de pétrole qui montent du garage endommagent ses poumons. Rien de grave, mais là encore, elle est à 100 lieues d'imaginer que ses lésions lui seront très utiles quand un jour elle sera arrêtée par la Gestapo. À cette époque, Christina Skarbek fait la connaissance d'un jeune homme riche, Gustav Gettlich. Les deux, bientôt, ne se quittent plus, fréquentant ensemble les lieux à la mode à Varsovie. En 1930, Christina, 22 ans, concourt pour devenir Miss Pologne. Elle échoue. Peu importe, Gustav et elle, qui adorent skier, séjournent souvent à Zakopane, la station de ski chic au sud de la Pologne, où l'on peut même observer les étoiles.
En Pologne, un téléphérique particulièrement rapide ne met que quelques minutes pour atteindre le nouvel observatoire de Zakopane. On a reconnu que l'étude des astres et surtout la photographie interplanétaire étaient nettement supérieures lorsqu'ils étaient pratiqués à une haute altitude, dans un air non souillé par les impuretés de l'atmosphère.
En 1930, le couple se marie. Tout destine enfin Christina à une vie sage et rangée. Mais rien ne se passe comme prévu. Le mariage se termine en divorce. Gustav en gardera une certaine amertume.
Christina était cinglée, romantique et toujours en quête de changement.
Vrai ou pas, en tout cas, de l'avis de tous ceux qui la connaissent, Christina n'a rien d'une femme d'intérieur. D'ailleurs, presque toute sa vie, elle vivra à l'hôtel. Christina, désormais célibataire, mène une vie mondaine et insouciante à Varsovie.
Varsovie s'est parée pour célébrer la fête de Noël suivant la tradition. L'antique traîneau remplace l'auto sur les routes. La ville s'enveloppe d'une calme poésie. Les arbres se sont couverts d'une merveilleuse et blanche floraison.
Mais durant ces années 30, impossible de ne pas entendre les bruits de bottes qui résonnent en Allemagne. En septembre 1938, la signature des accords de Munich donne un répit à la paix, mais au prix du sacrifice de la Tchécoslovaquie.
Des drapeaux flottent sur l'édifice qui abrite les négociateurs. Une même volonté de paix semble animer ces hommes qui tiennent en leurs mains les destinées du monde. Ainsi, à Munich, est né un immense espoir.
En novembre 1938, Christina, qui a maintenant 30 ans, se remarie avec Jerzy Gidzicki, de 20 ans plus âgé qu'elle, écrivain, diplomate et grand voyageur. L'année suivante, le couple part en voyage en Afrique. Mais en Europe, malgré Munich, les menaces de guerre s'intensifient. Après l'annexion totale de la Tchécoslovaquie, l'appétit d'Hitler se porte sur Danzig, en Pologne.
Venant de Londres, le général Ironside, inspecteur général des forces britanniques d'outre-mer, est accueilli sur l'aérodrome de Varsovie par le général Smigiritz, chef de l'armée polonaise. Au moment où l'Allemagne développe de façon inquiétante sa campagne d'intimidation à propos de Danzig, cette prise de contact entre les états-majors anglais et polonais, en affirmant très opportunément la solidarité des deux nations, apparaît d'une importance capitale pour le maintien de la paix européenne.
Le 1er septembre 1939, Christina et son mari sont en Afrique du Sud quand ils apprennent la nouvelle.
Allo, allo, tu marchava e wszystkie rozgłosnie polskie po radio. Dziś rano o godzinie 5:40 oddziały niemieckie przekroczyły granicę polską, łamiąc pakt o nieagresji. Bombardowano szereg miast. Za chwilę usłyszą Państwo komunikat specjalny.
This is the national program from London.
Ici la radio nationale à Londres.
Germany has invaded Poland and has bombed.
L'Allemagne a envahi la Pologne et a bombardé de nombreuses villes.
General mobilization has been ordered in Britain and France.
La mobilisation générale a été ordonnée en Grande-Bretagne et en France.
Christina et Jerzy sont très inquiets. D'autant que 2 semaines après l'invasion allemande, c'est au tour de l'Union soviétique d'envahir la Pologne par l'Est. Pressé de rentrer, le couple débarque en Angleterre le 5 octobre. Dès son arrivée à Londres, Christina, qui cherche un moyen d'être utile, reprend contact avec un journaliste anglais, Freddy Vogt, qu'elle a connu à Varsovie. C'est lui qui la présente à l'Intelligence Service, appelé aussi MI6, le service de renseignement britannique chargé des opérations à l'étranger. Auprès des agents recruteurs, la jeune femme fait forte impression. Pour preuve, ces mots notés dans son dossier le 7 décembre 1939.
Christina Skarbek est une fille très intelligente, habillée simplement, aristocratique, une ardente patriote polonaise, excellente skieuse et grande aventurière. Elle donne l'impression de n'avoir peur de rien. Je crois vraiment qu'avec elle, on a touché le gros lot.
Les Britanniques ont en effet besoin de savoir ce qui se passe en Pologne occupée. Il est donc urgent d'y établir un réseau de renseignements. Christina Skarbek, polonaise et qui parle plusieurs langues, est la personne idéale. Après seulement 2 entretiens, elle est engagée par le MI6 et envoyée en mission. Elle doit entrer clandestinement en Pologne, par le sud, depuis la Hongrie. Une mission dangereuse pour une novice. Elle quitte Londres le 22 décembre 1939. Son mari lui dit au revoir, sans savoir que cette séparation marque la fin pour toujours de leur mariage.
C'est l'être humain le plus intrépide que j'ai jamais connu, homme ou femme.
Le 23 décembre, Christina débarque à Budapest sous l'identité d'une journaliste française en reportage, Madame Marchand. Si la Hongrie officiellement est encore neutre dans le conflit, le pays entretient des liens étroits déjà avec l'Allemagne d'Hitler. Une allégeance qui sera officialisée moins d'un an plus tard, en novembre 1940, quand la Hongrie rejoindra les forces de l'Axe Allemagne-Italie-Japon.
La Hongrie adhère au pacte tripartite. À Vienne, au château de Belvédère, les représentants des puissances signataires vont se réunir pour la cérémonie officielle consacrant cette adhésion. Le chancelier Hitler arrive à son tour. Le président du conseil hongrois, M. Teleki. C'est dans la grande salle de réception de l'ancien palais des Habsbourg que le pacte est paraphé entre M. Teleki d'une part, M. von Ribbentrop, le comte Schiano et l'ambassadeur du Japon d'autre part.
Espionne britannique, citoyenne polonaise et juive de surcroît, Christina risque donc gros en entrant en Hongrie. À Budapest, elle découvre une ville transie de froid. Il fait moins 33 degrés et le Danube est gelé. Une capitale aussi où s'amassent de nombreux réfugiés qui ont fui la Tchécoslovaquie et la Pologne occupées par les nazis. Pour trouver le moyen d'entrer dans son pays, Christina prend contact avec les réfugiés polonais. C'est ainsi qu'elle rencontre Andrzej Kowerski, officier courageux de l'armée polonaise qui a réussi à fuir en Hongrie. À Budapest, il s'occupe d'exfiltrer vers la France des militaires polonais ou des prisonniers de guerre anglais. Suite à un accident dans sa jeunesse, cet homme, grand et large d'épaules, a une jambe artificielle, ce qui ne l'empêchera pas durant toute la guerre de mener des opérations dangereuses. Il ne tarde pas à devenir l'amant de Christina, mais aussi un véritable compagnon. Andrzej Kowerski est sans doute l'homme qui comptera le plus dans sa vie. Pour entrer clandestinement en Pologne, Christina réussit à convaincre un jeune compatriote de l'aider, Jan Maruzarz, un excellent skieur qui appartient à un réseau de la résistance de Zakopane, cette station de ski, vous vous souvenez, où Christina, il n'y a pas longtemps, venait en vacances. Zakopane, qui il y a quelques mois encore, accueillait les championnats du monde de ski.
Les championnats du monde se poursuivent à Zakopane. C'est dans une pittoresque ambiance animée par les riches costumes des montagnards de Zakopane que se déroule devant 20 000 personnes le concours de saut spécial sur lequel prendront fin les championnats.
Loin des compétitions sportives, Christina et Jan, bravant un froid polaire et le risque de croiser une patrouille allemande, partent à ski dans les montagnes enneigées. Ils quittent la Hongrie, traversent la Slovaquie du sud au nord, loin des lieux habités, puis entrent en Pologne. Sur leur chemin, vision terrible, ils croisent les corps gelés de Polonais morts en tentant de fuir. Une fois la frontière passée, Christina quitte son guide et, seule, poursuit sa route vers l'intérieur du pays, en train, à cheval ou même à pied. Cette route clandestine permettra de passer en Pologne des documents, des armes et du matériel radio, et en sens inverse, de rapporter du renseignement. Durant l'année 1940, Christina Skarbek effectue 4 fois le dangereux voyage. La première fois, elle découvre avec stupeur une Pologne martyrisée et affamée par l'occupant nazi et une Varsovie en grande partie détruite par les bombes. Les Juifs sont dépouillés de leurs biens et envoyés dans des camps de travail ou entassés dans des ghettos en vue de leur déportation ultérieure. Rapidement, Christina Skarbek entre en contact avec la résistance à laquelle elle fournit des outils de propagande. La RAF, l'armée de l'air britannique, effectue déjà des raids pour lancer des tracts à la population.
La Royal Air Force est de nouveau en mission au-dessus des territoires ennemis. Les équipages des bombardiers sont prêts à décoller pour aller larguer des tracts, sûrement très irritants pour les nazis. Voilà comment ils larguent leurs tracts au-dessus d'endroits comme Prague ou des usines de munitions. Un sacré boulot pour la RAF que de voler pendant des heures au-dessus de pays ennemis.
Londres veut faire savoir aux Polonais que la guerre continue avec les Alliés et les appeler à résister. À Varsovie, Christina réussit à retrouver sa mère, mais quand elle veut la convaincre de quitter la Pologne, sa mère refuse, persuadée que sa conversion au catholicisme la protège.
Avancez.
2 ans plus tard, en 1942, sa mère sera arrêtée par la Gestapo et probablement déportée. Christina ne la reverra jamais plus vivante. À Varsovie, un incident a bien failli être fatal à l'espionne. Alors qu'elle entre dans un café,
Christina,
une femme qu'elle a connue avant la guerre,
Christina Skarbek,
l'interpelle depuis l'autre côté de la salle.
Christina, qu'est-ce que tu fais à Varsovie? On m'avait dit que tu étais partie à l'étranger.
Stoïque, Christina lui répond qu'elle fait erreur, qu'elle ne s'appelle pas Skarbek, et devant le regard médusé de la femme, sort du café le plus tranquillement possible afin de ne pas éveiller les soupçons. Il est clair que Christina doit quitter au plus vite la Pologne. Elle prend un train en direction de la frontière tchécoslovaque. Mais juste avant l'arrivée à une gare où elle risquerait d'être contrôlée, l'espionne profite du ralentissement pour sauter discrètement du train et disparaît dans la nature. Elle poursuit à pied le voyage à travers la Tchécoslovaquie et arrive sans encombre en Hongrie et enfin à Budapest. Le MI6 est plus que satisfait de sa nouvelle recrue qui rapporte de Pologne des renseignements très précieux et détaillés sur l'état de la résistance intérieure, sur le nombre et l'emplacement des divisions allemandes dans le pays, sur les transports de troupes et de matériel. À partir de l'été 1940, Christina Skarbek travaille pour le SOE, ce nouveau service secret créé par Churchill. Son but, envoyer des agents dans tous les pays occupés par les Allemands pour soutenir la résistance et commettre des sabotages. Fin 1940, Christina rentre de sa 4e et dernière expédition en Pologne, une mission accomplie avec son compagnon d'armes et amant Andrzej Kowerski. Ils reviennent avec des microfilms contenant des renseignements très importants fournis par les Mousquetaires, un réseau de la résistance polonaise. Mais catastrophe, à leur retour à Budapest, le 24 janvier 1941...
Madame, s'il vous plaît.
Bonjour, monsieur. Contrôle des papiers, s'il vous plaît.
Christina et Andrzej sont arrêtés par la police hongroise qui les confie à la Gestapo. La Hongrie, je le rappelle, a signé 2 mois plus tôt une alliance militaire avec Hitler et maintenant la police du Reich intervient librement dans le pays. Interrogés séparément par la Gestapo, Christina et Andrzej, l'un comme l'autre, s'obstinent à nier.
Non, je ne suis pas une agente britannique.
Je vous le répète, je ne suis pas un agent britannique.
Mais combien de temps vont-ils tenir? Obsédés à l'idée que les nazis puissent mettre la main sur les microfilms qu'Andrzej a cachés dans sa jambe artificielle, Christina a soudain une idée de génie. Connaissant la phobie des Allemands pour les maladies infectieuses, elle se souvient des vapeurs de pétrole qui, lorsqu'elle travaillait chez Fiat à Varsovie, l'avaient rendue malade et lui avaient laissé des lésions aux poumons. Au poste de police, Christina a donc l'idée de se mordre la langue le plus fort qu'elle peut. Elle tousse et, comme prévu, elle se met à cracher du sang. Aux hommes de la Gestapo qui la regardent, effarés, elle explique innocemment
« Je suis malade. J'ai la tuberculose depuis quelques années. »
Après une radiographie des poumons ordonnée par les nazis, un médecin, incompétent on peut le dire, confirme qu'il s'agit bien d'un cas de tuberculose. La Gestapo alors relâche le couple, mais néanmoins méfiante, décide de le faire suivre. Alerté, le MI6 à Londres se rend compte que la présence de Christina Skarbek et d'Andrei Koversky en Hongrie est devenue trop périlleuse. Ils doivent quitter le pays au plus vite. C'est le consul de Grande-Bretagne à Budapest, Sir Owen O'Malley, homme courageux et grand ami de la Pologne, qui organise leur exfiltration. Première chose, il leur établit de vrais faux passeports. Andrei Koversky devient Andrew Kennedy, tandis que Christina Skarbek devient Christine Granville, un nom d'emprunt que l'espionne gardera jusqu'à la mort. C'est donc sous leur nouvelle identité que nous appellerons désormais les deux Polonais. Maintenant, il faut vite partir. Christine embarque dans le coffre de la Chrysler diplomatique, le chauffeur du consul démarre et prend la route vers le sud en direction de la Yougoslavie. Kennedy part lui aussi, mais à distance, dans son Opel personnel. Le consul O'Malley est très impressionné par Christine Granville.
Elle est extrêmement courageuse. Sans hésitation, elle est prête à tout sacrifier pour les idées auxquelles elle croit.
C'est avec soulagement que Christine et Andrew arrivent en Yougoslavie. Pendant quelques jours, le couple qui vient d'échapper à la Gestapo fête sa liberté retrouvée dans les restaurants de Belgrade. À grand renfort de spectacles de danse du ventre et de champagne. Et toujours sous la menace d'être rattrapés par des agents nazis, les deux espions quittent Belgrade dans leur Opel. Il était temps. Quelques semaines plus tard, le 25 mars 1941, la Yougoslavie adhère à son tour à l'alliance tripartite sous la pression d'Hitler. Arrivé à Sofia, en Bulgarie, il se présente à la légation britannique. Aidan Crowley, l'attaché militaire, se souviendra longtemps de cette rencontre.
En février 1941, nous eûmes deux visiteurs inhabituels. Une jeune polonaise, très belle, Christine Granville, et un sympathique ex-officier polonais, Andrei Koversky. Ils arrivaient de Budapest. Ils avaient avec eux plusieurs rouleaux de microfilms qui révélait les préparatifs à grande échelle menés par les Allemands en Pologne, en vue d'une attaque de l'Union soviétique. C'était la première fois que nous en avions une preuve. J'envoyais aussitôt un rapport au Caire et à Londres.
Ces microfilms donnent en effet la preuve indubitable que la Wehrmacht amasse des troupes et du matériel à la frontière orientale de la Pologne. Une nouvelle stupéfiante, sachant qu'Hitler et Staline sont liés depuis 1939 par un pacte de non-agression. À Londres, quand Winston Churchill, le Premier ministre, apprend la nouvelle, il en informe immédiatement Staline. Mais Staline, qui a déjà été averti par ses propres espions, s'obstine à ne pas y croire et il ne fera rien pour anticiper l'invasion de l'URSS qui aura bien lieu quelques mois plus tard, le 22 juin 1941. Quant à Churchill, il est bluffé en découvrant les microfilms.
Cette Christine Granville, c'est mon espionne préférée.
Et pourtant, on a du mal à y croire, mais dans les semaines qui suivent, Christine Granville et Andrew Kennedy seront soupçonnés d'être des agents doubles. Après un long et difficile voyage via Istanbul et Beyrouth, ils arrivent enfin en mai 1941 au Caire, en Égypte, pays alors sous domination anglaise. À leur grand étonnement, l'accueil du SOE est plutôt froid, car les Britanniques s'interrogent. Comment, après leur arrestation à Budapest, Christine et Andrew ont-ils pu être relâchés au bout seulement de 24 heures? comment ensuite ont-ils pu traverser l'Europe sans être suivis par la Gestapo et ses collaborateurs? La réponse la plus plausible est que Christine Granville, les soupçons pèsent surtout sur elle, a été retournée par les nazis. Les Britanniques sont d'autant plus méfiants qu'ils ont appris que les mousquetaires, le réseau qui a fourni à Christine des renseignements, a été infiltré par des Polonais pro-nazis. Situation incroyable. Christine Granville et Andrew Kennedy, qui ont beau protester, sont regardés maintenant comme de potentiels espions nazis. Ils ne sont pas renvoyés, mais suspendus, tout en recevant leur salaire. Au grand désespoir de Christine, ils vont rester inactifs pendant 2 ans, profitant de leur temps libre pour visiter le Caire.
Il n'y a pas que les combats dans le désert au Moyen-Orient, même si c'est ce qu'on fait le plus souvent. Pendant un temps calme, allons parcourir la ville du Caire avec quelques types en permission. Après la promenade en chameau, un tour dans le bazar, le célèbre Musky, le plus vieux bazar du Caire.
Ce n'est qu'en 1943 que le SOE reprend confiance en eux. Mais pas question qu'ils retournent en Europe centrale, où ils seraient vite reconnus. En attendant, Christine apprend la transmission radio, qui l'ennuie profondément, mais aussi le saut en parachute, où elle se révèle excellente.
Aujourd'hui, les armées des nations alliées ont fait leur premier débarquement sur le sol de l'Europe de l'Ouest. Une des plus grandes batailles décisives de l'histoire du monde a été engagée. C'est le jour que les peuples libres ont tant attendu. C'est le jour J.
Ce n'est qu'après le débarquement allié, le 6 juin 1944, qu'une opportunité se présente enfin pour Christine. Le SOE décide de l'envoyer en France pour devenir la nouvelle agente de liaison de Francis Kamertz, le chef du SOE de la zone sud-est de la France. On lui fournit des papiers d'identité au nom de Jacqueline Armand. Son nom de code sera Pauline. On lui donne aussi un revolver, des cartes de rationnement, de l'argent et bien sûr, une capsule de cyanure à avaler si l'espionne est arrêtée et qu'elle préfère la mort à la torture.
Je passe de l'endroit dans 1 minute. Apprête-toi à sauter et ouvre bien les yeux pour le signal. Je vais tourner une fois et alors, saute. 10 secondes. Au revoir et bonne chance. Saute.
À l'aube du 7 juillet 1944, Christine Granville est parachutée sur le plateau du Vercors, près de Vassieux. Après un atterrissage brutal à plusieurs kilomètres de l'endroit prévu, l'espionne se cache comme elle peut dans un buisson pour échapper à une patrouille allemande. Mais les soldats sont accompagnés de chiens. On imagine la frayeur de la jeune femme en voyant un berger allemand s'approcher d'elle. Mais habituée au contact avec les animaux, et grâce sans doute aussi à un coup de chance, elle réussit à calmer l'animal en le caressant et lui murmurant quelques mots en polonais. Le chien retourne vers ses maîtres sans donner l'alerte, tandis que Christine réussit à rejoindre le maquis. Depuis 1942, le Vercors, véritable forteresse naturelle dans les Préalpes, est un bastion de la résistance française. Les FFI, Forces françaises de l'intérieur, y sont soutenues par le SOE. En 1944, un plan, le plan Montagnard, approuvé par De Gaulle et les Alliés, prévoit qu'à l'été, après les débarquements de Normandie et de Provence, le maquis du Vercors, renforcé par le largage allié d'hommes et de munitions, se soulèvera pour prendre en revers l'ennemi. Mais en juillet, quand Christine débarque dans le Vercors, la situation est très tendue. Les maquisards, sûrs de la victoire prochaine, ont proclamé la République du Vercors. Une provocation pour les Allemands qui veulent en finir. Le 21 juillet 1944, ils lancent l'offensive avec 10 000 hommes.
80 planeurs partis de Nancy apparaissent un matin au-dessus de Vassieux. Ils sont précédés par des troupes d'élite parachutées.
Au début, on croyait que c'était les Américains. Quand on a vu les croix gammées, c'était trop tard.
Sans l'aide promise par les Alliés, la résistance se défend avec ardeur.
bénéficiant de la surprise, les SS débordent de nos derniers nids de résistance et s'infiltrent dans Vassieux, où l'incendie commence à faire rage.
L'ennemi reprend le Vercors à grands coups d'incendie, d'arrestation et de massacre. Christine et Kamertz réussissent in extremis à s'enfuir à pied. Après une marche de 3 semaines dans les Alpes, Christine rejoint la frontière italienne au niveau du col de l'Arche, où elle va accomplir un de ses exploits les plus incroyables. Le col de l'Arche est tenu fermement par les Allemands depuis une forteresse en altitude. Mais Christine découvre que la garnison est composée principalement de Polonais, enrôlés de force dans la Wehrmacht. Ce qui lui donne une idée. Le 8 août 1944, seule, après une ascension de près de 2 jours à pied jusqu'au fort, elle s'adresse en polonais à ses hommes en leur révélant sa véritable identité.
« Je travaille pour les Britanniques, mais je suis polonaise, comme vous. Je m'appelle Christine Skarbek. »
Un risque énorme pour l'espionne. Elle leur rappelle que la défaite allemande est inévitable et qu'ils ont tout intérêt à déserter. 2 jours plus tard, victoire, le commandant allemand de la forteresse se rend et les mutins polonais rejoignent les rangs de la résistance. Christine Granville est fière de son exploit. Mais sa joie est de courte durée. Elle apprend que son chef, Francis Kamertz, a été arrêté par la Gestapo avec 2 autres agents. Ils sont enfermés dans la prison de Digne, où ils attendent d'être fusillés. Décidée à les libérer, Christine parcourt à vélo les 40 km jusqu'à Digne. Tout en pédalant, l'espionne élabore des scénarios d'évasion. Arrivée à Digne devant la prison, elle fait le tour du bâtiment en fredonnant Frankie and Johnny.
Christine.
Une chanson que Kamertz et elle avaient l'habitude de chanter ensemble. Kamertz, du fond de sa cellule, on imagine sa surprise, répond en reprenant l'air. Il est donc bien là et bien vivant. Avec l'audace qu'on lui connaît, Christine Granville décide de rencontrer l'officier de la Gestapo en charge des prisonniers.
Écoutez, je suis anglaise. Je suis la femme de Francis Kamertz, mais aussi la nièce du général Montgomery.
La nièce de Montgomery, le général britannique qui, pendant le débarquement en Normandie, commandait les forces terrestres alliées. Quel culot cette Christine Granville! Et quel courage aussi!
Les hommes que vous avez capturés sont des agents alliés très importants. Si quelque chose leur arrive, je vous préviens, les représailles pour vous et vos hommes seront terribles.
Les mots de Christine sont d'autant plus percutants que, les Allemands le savent, les Alliés viennent le 15 août 1944 de débarquer en Provence.
Terre ! Terre, c'est la France ! Le général Delattre de Tassigny est prêt, comme est prête la première armée. Le pavillon étoilé flotte sur un ciel de bataille. Vaisseau poudré de chalons LTS. À l'odeur de la poudre se joint celle de la France, toute proche.
Après une discussion tendue de plus de 3 heures, l'officier allemand accepte finalement de libérer les prisonniers, à condition que les Britanniques le protègent de la vengeance des Français, mais aussi qu'ils lui versent 2 millions de francs. Christine Granville, ne pouvant répondre seule à cette question, repart à vélo, rejoint son poste émetteur et envoie un message au SOE. La réponse ne tarde pas, c'est oui. Preuve que les prisonniers sont très précieux, le soir même, les 2 millions de francs sont largués d'un avion de la Royal Air Force. Et le lendemain au petit matin, juste avant l'heure prévue de leur exécution, les prisonniers sont libérés. On le comprend, ces 3 hommes voueront une reconnaissance éternelle à cette femme qui vient de risquer sa vie pour eux.
Throughout
Les peuples du monde entier célèbrent la fin de la guerre en Europe. Il y a plus de 5 ans maintenant, Hitler envahissait la Pologne. Des années pleines de souffrances, de morts et de sacrifices. Maintenant, la guerre contre l'Allemagne est gagnée.
En 1945, quand la guerre est finie en Europe, Christine Granville, rentrée en Angleterre, retrouve son compagnon Andrei Kowarski. Mais quand il lui propose de l'épouser et de venir vivre avec lui en Allemagne, elle refuse. Christine voit son courage honoré par les récompenses les plus prestigieuses, la George Cross, l'Ordre de l'Empire britannique et la Croix de guerre française. Mais en même temps, le gouvernement de Londres ne sait pas trop comment reclasser cette femme hors norme, plus à l'aise dans l'action que dans un bureau. D'autant que sa vraie nationalité est polonaise. Christine, d'ailleurs, espère rentrer dans son pays. Mais la Pologne, après l'occupation allemande, est passée sous influence soviétique. Une situation qui a été entérinée à la conférence de Yalta début 1945.
La conférence de Crimée s'est tenue à Yalta. Voici rassemblés les hommes qui vont affirmer à nouveau leur volonté d'en finir avec l'Allemagne et préparer leur attitude commune sur les problèmes que posera l'après-guerre.
D'un côté, donc, le retour en Pologne se révèle impossible. De l'autre, l'héroïne de SOE doit attendre fin 1946 pour qu'enfin le Royaume-Uni lui accorde la nationalité. Et comme, par fierté, elle ne réclame ni poste ni pension, elle survit avec des boulots de serveuse, de vendeuse ou femme de ménage. En 1951, poussée par un désir de voyager, elle embarque sur un paquebot de croisière comme hôtesse. C'est durant cette traversée qu'elle fait la connaissance de Dennis Muldowney, un employé du bateau qui tombe fou amoureux d'elle, trop au goût de Christine, qui fait tout pour l'éloigner. Mais le 15 juin 1952, alors qu'elle rentre le soir à son hôtel, le Shelbourne Hotel dans le quartier de Kensington à Londres, Muldowney l'attend. Et quand Christine lui demande de la laisser tranquille, il la tue d'un coup de couteau. Terrible ironie du sort, celle qui avait échappé 1000 fois à la mort pendant la guerre meurt en temps de paix, sous les coups d'un harceleur à l'âge de 44 ans, inconnu du grand public, comme il se doit pour tout espion. Elle est enterrée au cimetière catholique St. Mary de Londres. Muldowney sera condamné à mort pour ce crime et pendu. Andrei Kowarski, l'amant et le compagnon avec lequel Christine avait accompli quelques-unes de ses plus folles missions en Pologne occupée, ne se mariera jamais. Et quand il meurt en 1988 à l'âge de 78 ans, ses cendres, à sa demande, sont enterrées au pied de la tombe de Christina Skarbek, alias Christine Granville, cette espionne du SOE qui aimait passionnément la liberté. Espion, une histoire vraie, de Stéphanie Duncan, est un podcast original de France Inter. Réalisation Audrey Ripouille, documentation Frédéric Martin, mixage Cédric Diallo et Basile Bocquer, avec les comédiens Yaël El-Haddad, Benoît Marchand et Marc Prince.